Devine qui vient dîner avec le magazine L'Hebdo. Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Avez-vous jamais regardé très attentivement les doigts d'un pianiste sur les innombrables touches d'un piano? Alors évidemment, dans une pièce musicale un peu rapide, on a le sentiment que tout cela tient du miracle. Non, parce que, et vous le savez certainement, les touches sont pas bien grandes, les blanches déjà, les noires elles sont franchement étroites, et comme vous le savez également, il y a 5 doigts par main, donc 10 en tout. Et comme vous ne l'ignorez pas, les compositeurs sont des pervers qui suivent leur inspiration sans aucun égard, ou pratiquement pas, pour les futurs interprètes de leurs œuvres. Compositeurs souvent pianistes, parfois prodiges en plus. Et comme vous vous en doutez enfin, la moindre erreur de doigt est une catastrophe harmonique, musicale et évidemment catastrophe personnelle. Alors comment font les pianistes virtuoses pour que leurs doigts tombent toujours, ou presque, au bon endroit, avec la bonne intensité et dans le bon rythme? Ben, c'est l'un des mystères du cerveau humain qui ne lasse pas de m'interroger. Bonsoir Dan Poenaru.
Bonsoir.
Vous êtes pianiste, concertiste, professeur, est-ce que vous parvenez à regarder vos doigts bouger sur le clavier sans sombrer dans la plus grande perplexité pendant que vous êtes en train de jouer, je ne sais pas, une pièce de Liszt ou de Chopin ou de Brahms?
J'essaie de ne pas regarder mes doigts.
Et si vous regardez, qu'est-ce qui se passe?
Mais disons, ça me donne le vertige, donc il vaut mieux ne pas regarder.
Ça donne le vertige, on
oui,
est bien d'accord. On ne comprend pas exactement quand on joue ce qu'il se passe. Alors on sait qu'on a travaillé, on sait qu'on a regardé les partitions, qu'on les a déchiffrées, qu'on a mis les doigtés, comme on dit, oui. Mais on ne sait pas ce qui se passe.
Mais je pense que si vous demandez à un coureur de 100 mètres de regarder le bout de ses souliers, eh ben, il aura la même sensation.
Même à quelqu'un qui marche d'ailleurs.
Oui.
Pareil. Donc, qu'on ne peut pas se regarder marcher, qu'on tomberait.
Et puis, ce n'est pas le but. On peut regarder les doigts, on doit regarder les doigts quand on fait des corrections. Sur le plan purement technique. Mmh. Mais quand on joue, on ne regarde pas.
On ne peut plus.
Non. Mmh.
Ça donne effectivement le vertige.
Oui.
Mais pas au public, puisque c'est le public qui veut être sur la gauche de la salle pour voir les mains du pianiste.
Alors j'avais dit à l'invité avant l'émission, vous intervenez quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Seulement il intervient avant qu'on l'ait présenté, évidemment. Donc il va falloir faire le boulot un tout petit peu à l'avance. Donc vous n'êtes pas venu tout seul, Dan Poenaru. Vous êtes venu avec un invité que vous allez nous présenter.
Voilà. Mon invité, c'est maître Olivier Verret.
Notaire.
Très important.
Pourquoi c'est si important? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez avocat. Bonsoir, maître Olivier Verret.
Bonsoir.
Et vous m'avez dit, oulala, non, je suis notaire. Ça avait l'air essentiel de dire que vous étiez notaire et pas avocat.
Oui, dans le canton de Vaud, les professions sont très séparées, avocat ou notaire, et pas les deux, alors que dans d'autres cantons, c'est le cas.
Il y a des susceptibilités,
il y a aussi des raisons légales, mais il y a des susceptibilités. Quand on est l'un, on n'est pas l'autre, et on est fier de l'être.
Dan Poenaru, présentez-nous Olivier Verret.
Alors, on se disait tout à l'heure, avant l'émission, on essayait de trouver une date qui a marqué le début de nos rencontres. Hein. Et on a trouvé une date où j'avais aperçu de très loin Olivier. Il était en train de faire le discours final du concours Clara Askill, et c'était le 11 septembre 2001. Donc vous voyez, c'est une date qui marque.
C'est ce jour-là
c'est
que vous vous êtes rencontrés.
Oui, c'était le pianiste allemand Martin Helmchen qui avait gagné, avec Lauren Foster qui dirigeait, et puis Olivier avait fait...
Il fallait ça pour qu'on s'en souvienne de la date, n'est-ce pas?
Êtes-vous sûr?
Oui. Voilà, ça a été une date qui nous a marqués, disons.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, par exemple? Pour vous, pour le monde entier, on sait bien, et pour les États-Unis encore mieux, mais pour vous?
Bah, on s'est rencontrés alors qu'on ne se connaissait pas.
Mais vous avez
commencé à parler
de
nous.
Non,
c'était la finale du concours à Askill. Oui. On avait deux ou trois choses à se raconter. Mais on ne s'est même pas tellement parlé d'ailleurs.
Pas vraiment, mais ça a été le jour où ça a fait boum. Mm-hmm. C'est qu'on était, là. Donc c'est la première fois que j'avais aperçu Olivier. Mm-hmm. Et puis par la suite,
Il est devenu le professeur de piano de ma femme.
Je n'osais pas le dire, alors.
Alors, évidemment, j'ai demandé à ma femme de me montrer son professeur de piano, que je lui parle un petit peu quand même, pour savoir si elle avait vraiment du talent ou pas. Ça, c'est une question à laquelle on n'est pas obligé de répondre ce soir.
Surtout, quel intérêt ?
Ensuite, on a commencé à parler de musique. Alors là, évidemment, on ne s'arrête plus. Et c'est très curieux, parce qu'on n'est pas de la même origine géographique, on n'est pas lui, il est pianiste, moi pas du tout. Et puis on est toujours tout à fait d'accord sur tout. Alors qu'on passe sa vie à chercher des gens avec qui on puisse partager des choses très particulières et intimes sur la musique, par exemple, ou sur l'art, on n'en trouve jamais. Mais là, nous, on s'est trouvé. On se passe des disques et on se donne des bonnes idées. Et on parle même de doigté, alors que je ne suis pas pianiste. C'est amusant, n'est-ce pas?
Cela dit, Maître Olivier Verret, pour ce qui nous concerne, lorsque vous n'êtes pas juriste, lorsque vous n'êtes pas Maître Olivier Verret, vous êtes un fou de musique, au point d'être ou d'avoir été, alors j'y vais en... Ah ben je sais pas, c'est un petit peu mélangé. Non, alors c'est très mélangé finalement dans les dates. Mais par exemple, président du Montreux Voice and Music Festival, entre 2000 et 2002, président de l'association Clara Askill à Vevey, à partir de 95, ça a duré combien de temps ?
Ça continue.
Le concours continue.
Cette année,
et donc,
par exemple.
C'est toujours vous ?
Ah oui, bien sûr, oui, ça me plaît.
Je peux comprendre. Président du conseil de la Fondation, on reviendra d'ailleurs sur ce concours, Clara Askill.
Oui,
concernant
il y a des choses à dire. Oui, tout à fait.
Il y a des choses à dire.
Volontiers.
Il y a vraiment des choses à dire, des choses qui tordent le ventre et le cœur, vraiment. Mais on y reviendra.
Ne dramatisons pas à ce point.
Un petit peu quand même.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dramatisons.
Non, mais la musique, c'est ça.
Quelque part.
Voilà, c'est tension détente. Donc là, c'est franchement tension. Président du conseil de la Fondation de l'Ermitage à Lausanne, 1995, ça continue.
Mais bien sûr.
Président du conseil de la Fondation de la Cinémathèque Suisse.
Mais bien sûr.
Ça continue, depuis 98. C'est un président né. Président du conseil de la Fondation de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, depuis 2002. Ça continue.
Bien sûr.
Et président de Claves Records.
Mais oui. Oui, ça a trait un peu à la musique.
Vous choisissez bien vos amis, Dan Poenaru.
Écoutez, pour tout vous dire, je suis allé sur Internet
pour savoir exactement,
pour ne pas commettre les impairs.
Vous me feriez, Olivier Verret, vous me feriez le portrait amical de Dan Poenaru.
Comme je vous disais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'occasion de la musique. Et puis depuis ce moment-là, on n'a plus jamais arrêté de parler de musique.
Mais qui est-il ?
C'est un Roumain.
Oui, ça, on en parlera. Mais qui est-il pour vous ?
Qui est venu en Suisse. Mais c'est un ami, c'est tout. C'est un ami qui aime la musique. Oui, mais c'est rare, vous savez, les gens qu'on découvre comme ça, un peu sur le tard.
Il y a des tas de gens qui aiment la musique et vous êtes bien placé pour savoir.
Non, mais c'est pas parce qu'il aime la musique, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui il fait bon être, fumer un cigare, parler de musique.
Vous fumez le cigare, Dan Poenaru ?
Oui, c'est moi qui l'ai un peu...
Initié ?
C'est lui qui m'a corrompu.
Voilà. C'est la Suisse, ça.
Oui, mais vous savez pas ce qu'il m'a répondu après.
Non. Hein ?
Il vaut mieux un pianiste corrompu qu'un notaire corrompu.
On est bien d'accord.
Oui.
Encore que...
Les cigares sont marrons, mais le notaire marron, c'est quand même un peu plus délicat, n'est-ce pas ? Mais non, je crois que c'est simplement ça. On se rencontre comme ça, alors qu'on vient de deux endroits complètement différents, puis on est bien ensemble.
Deux destins totalement différents.
Oui, sans pas me parler de destin. Mais enfin, on reconnaît des gens avec qui les choses se passent bien et facilement, et on a du plaisir à se voir, qu'on se voit tous les trois mois ou tous les trois jours, c'est la même chose. Alors ça permet de se retrouver ici ce soir et de parler du concours Clara Askill.
Entre autres choses. Je propose aux auditeurs qu'on vous écoute, qu'on vous entende, Dan Poenaru. On reviendra sur les circonstances de cet enregistrement, parce qu'elles sont assez particulières finalement, et que c'est une folie absolue. Ça ne se fait pas en général, on ne fait pas ce genre de choses. Mais enfin, on vous écoute dans le premier mouvement du deuxième concerto de Johannes Brahms. Quelques mots peut-être pour le présenter, ce mouvement. Je ne sais pas si on écoutera tout le mouvement, on verra, on improvisera.
Oui, c'est un tout petit peu long.
Oui. Ça nous empêcherait de parler si on écoutait tout.
Oui, mais...
Que dire ? Je sais que Brahms, c'est votre compositeur absolu.
Oui, c'est un de mes...
C'est un de vos préférés,
un de mes compositeurs préférés. Je voulais dire que j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir jouer les deux concertis. Et je me rends compte que le deuxième ne peut pas être dissocié du premier. Mmh. C'est du Brahms.
On va le faire ce soir pourtant.
Voilà. Enfin, c'est le timing. Mais c'est le Brahms jeune et fougueux et qui ne comprenait pas pourquoi les choses de la vie sont telles qu'elles sont. Il ne comprenait pas pourquoi Schumann, qui était son mentor, devrait passer l'épreuve qu'il passait.
Hein. C'est-à-dire la dépression, voilà,
exactement,
le suicide.
Et cela se sent à travers le premier concerto. Et puis, une certaine quiétude. Je dis une certaine quiétude dans le deuxième concerto. Mm-hmm. Donc, pour moi, les deux sont intrinsèquement reliés. Et j'ai eu l'opportunité de le prouver, de me le prouver, disons, de ressentir les deux en les jouant dans le même concert.
Alors, on l'écoute enregistré avec l'orchestre philharmonique Mikhail Jora.
Mikhail Jora
a été
un très grand compositeur et a été le professeur de composition de Dino Lipati.
Mmh. Il est dirigé par Ovidiu Vallan.
Thank you.
Oui, je sais. Je sais, Dan Poenaro. Je sais quelle frustration, je sais quelle castration presque, même ça peut être. Cela dit, pour dire qu'on ne se rend pas bien compte de ce que représente ce qu'on vient d'entendre là, c'est donc extrait d'un disque qui offre les deux concertos de Brahms, enregistré en concert. Alors oui. ça s'entend pas, parce que si on avait écouté la fin, oui. On aurait entendu les applaudissements. Ça veut dire que vous les avez joués en même temps, l'un après l'autre. Oui. Et c'est colossal, c'est-à-dire qu'en général, personne, aucun pianiste un peu réputé, ne prend ce genre de risque, parce que c'en est un, parce que c'est titanesque, parce que ça demande, outre la technique et la musicalité, une énergie et une force peu communes, une endurance incroyable. Il y a 80 minutes, 90 minutes de musique à peu près.
Oui, on peut dire. Hein, oui. 45 par concert.
Et sans cesse, à très peu de choses près, où l'orchestre de temps en temps prend le dessus, mais enfin, juste pour pouvoir faire ça, mettre les mains dans des sauts de glace,
par exemple.
C'est pas quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous a pris?
Quelle bonne question, je ne me suis jamais posé la question sous cette forme-là.
Non, mais vous le savez bien qu'on ne fait pas ce genre de choses.
Si, on le fait.
Vous ?
Mais écoutez, oui, non, il y a eu plusieurs pianistes qui l'ont fait.
Oui, même. En 1923.
Julius Katchen avait fait ça.
Oui, en 1942.
C'était dans les années 60.
Admettons.
Oui. Alors, moi j'ai toujours voulu avoir l'occasion, donc l'opportunité, de jouer un concert, ces deux œuvres. Je les avais jouées la première fois, mais à deux jours d'intervalle, il y a à peu près 14 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis cette fois, on était parti avec le chef d'orchestre et l'orchestre de Bacau, justement, pour faire un disque en studio. Et on avait l'enregistrement en boîte. On l'a enregistré très rapidement. En 3 jours et demi, on avait tout. Et puis on s'est dit, si on essayait quand même le live, sait-on jamais.
Pour voir.
Oui, juste pour voir. Mais
psychologiquement, on a assuré l'enregistrement, maintenant voyons.
Voilà. Donc, mon épouse m'avait demandé tout à l'heure si j'avais les mains froides. C'est une des rares fois de ma vie où j'avais les mains toutes chaudes et puis je suis parti en pleine confiance.
Oui.
Oui. C'est-à-dire que c'était ça. Je pouvais les jouer 3 fois dans la même journée, les deux concerts. Donc, j'étais entraîné, si on veut.
Mmh. Il n'y a pas seulement ça, et on y reviendra. Peut-être que le lieu.
Oui.
Peut-être que le pays.
Oui.
Peut-être que les circonstances galvanisent et donnent des forces.
C'est possible, c'est un mélange de tout
qu'on
ça.
Qu'on pensait peut-être ne pas avoir. Olivier Véret, vous étiez partie prenante de cet enregistrement, de ce concert, de ces concerts ?
Oui, un tout petit peu. L'orchestre de Bacau devait venir en Suisse pour donner quelques concerts et récolter quelques fonds pour changer leurs instruments qui sont en mauvais état. Incontestablement, les ayant vus, je peux le certifier. Et puis la tournée s'est pas faite parce que, pour des questions financières, je crois. Néanmoins, parmi les instruments que cherchait l'orchestre, il y avait aussi un piano à queue. Et par une fondation dont je m'occupe professionnellement, l'une ou l'autre, il y en a beaucoup, on a pu néanmoins récolter ou trouver les fonds pour offrir à ce piano à l'orchestre de Bacau. On est allé l'inaugurer là-bas. Et
c'est donc ce piano qu'on entend là.
C'est ce piano qu'on entend là, oui. C'était pas ce concert qui était le concert inaugural, c'était un autre, mais voilà. Mais pour revenir à la question des deux concertos, moi je pense que si les organisateurs de concerts...
Vous n'êtes pas concerti, vous.
On peut mettre un S à concerto. Si les deux, c'est plus français.
C'était pour vous taquiner, Olivier Véret.
Ouais, non, allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que si les organisateurs de concerts le demandaient, il y a des tas de pianistes qui le feraient. Simplement, on n'ose pas faire un programme de cette nature. Ce qui est une erreur, parce que comme Dan le disait tout à l'heure, je pense que la couleur de ces deux concertos est telle qu'ils méritent d'être entendus l'un après l'autre. On a fait l'expérience en écoutant les deux disques l'un après l'autre.
Oui,
voilà, et c'est une chose tout à fait étonnante.
Tout à fait acceptable. Enfin, oui, je veux dire, on n'est pas écœuré. Voilà, à la fin. Donc, je le disais, vous l'avez, ce disque dont on vient d'entendre un extrait, vous l'avez enregistré en Roumanie, le pays que vous avez quitté en 1981. On reviendra sur les circonstances de ce départ, de cet exil. Est-ce que le contexte de ce concert vous a donné des forces supplémentaires, un supplément d'âme?
C'est possible, mais je pense que c'était plutôt inconscient.
Ah, vous ne le
J'étais
diriez pas comme ça.
J'étais trop à mon affaire, à ce que je devais jouer. pour avoir des états d'âme, mmh. autres que celles que ceux qui m'étaient suggérés par la musique. Mmh. Mais je peux, en deux mots, je dois dire, cet orchestre philharmonique a été un des premiers avec lequel j'ai débuté quand j'étais étudiant. Donc ils m'ont fait confiance, ils m'avaient programmé avec le cinquième, le concerto de Beethoven, l'Empereur, quand j'avais 19-20 ans. Et puis depuis, j'avais collaboré pas mal avec eux.
Garder des relations.
Tout à fait, tout à fait. Et puis depuis 81, en quittant la Roumanie, je ne les ai plus contactés puisque je ne pouvais pas quitter la Suisse et rentrer dans mon pays. Une vingtaine d'années plus tard, ou presque, une fois la nationalité suisse acquise, j'ai pu retourner dans mon pays. Mm-hmm. Et j'ai renoué justement les liens, entre autres, avec cette philharmonie, avec laquelle je joue année après année.
Mm-hmm. Parce que vous êtes né d'Anne Poenaru en Roumanie, donc mm-hmm. dans un pays à une époque qui vous a fait finalement perdre des années extraordinairement précieuses lorsqu'on mm-hmm. se destine à cette carrière de concertiste.
On peut dire, oui, on peut dire ça comme ça. Mmh. À l'époque de la période communiste, la sortie vers l'Occident était complètement barrée. Avoir un passeport, c'était...
Ne serait-ce qu'un visa, oui, pour aller circuler.
On ne pouvait pas avoir un visa si on n'avait pas de passeport.
Pas de passeport.
Donc on n'avait pas de passeport, on n'avait pas de visa. Mmh. Et même pour faire carrière en Roumanie, il était conseillé de participer à des concours internationaux de piano.
Mais on ne pouvait pas y aller.
Certains pouvaient.
Mais certains, sur quels critères?
Sur d'autres critères que les miens.
Sur des critères d'argent? Il fallait avoir cassé la patte à quelques...
Peut-être. On n'a jamais su. C'est possible. Sinon, je l'aurais fait plus tôt.
Oui.
Donc, je n'ai jamais su. C'est par un coup de chance qu'en 81, mm-hmm. on m'a donné la première fois de ma vie un passeport. Voilà, mm-hmm. et je suis venu. Il se fait que ça a été pour la Suisse et pour le concours Claraschi.
Parce que, donc en Roumanie, à l'adolescence, vous apprenez le piano, vous vous destinez à la carrière de concertiste parce que vous en avez les capacités. Vous préparez les concours, le répertoire donc extraordinairement exigeant d'un concertiste. Mais alors, on ne vous donne pas de visa pour sortir. Mm-hmm. Et puis, vous parvenez, comme vous le dites, à en obtenir un pour venir en Suisse pour le concours Claraschi.
J'arrive trop tard.
Vous arrivez quelques jours trop tard.
Le concours était arrivé à la phase des demi-finales.
Non, mais c'est incroyable.
Oui.
Enfin, c'est impossible.
Oui. Non, ça a été possible. Mm-hmm. Donc, j'avais décidé qu'il n'y aurait plus de retour. Mm-hmm. Et que j'allais, coûte que coûte, rester en Suisse.
Vous décidez de ne pas repartir.
Voilà, ne plus repartir.
Mais c'est un choix terrible en même temps.
C'est-à-dire
que vous partez pour revenir, théoriquement. Et puis, finalement, vous partez et vous ne revenez
je
pas.
Ne
ça veut
plus.
Dire quitter des amis, une famille, un pays, tout quitter.
Voilà.
C'est un moment horrible.
Ça a été assez difficile, mais c'était ma survie. Mm-hmm. Si je n'avais pas quitté la Roumanie, j'aurais dû abandonner le piano et faire des études de mathématiques ou d'ingénierie pour changer de métier. Mm-hmm. Il n'était plus possible de pratiquer le métier de musicien à cette époque-là. Mm-hmm. Juste pour vous dire que dans les orchestres, on réduisait les effectifs, on leur demandait de jouer plus fort.
Hein? Moins nombreux, mais plus fort.
Oui, voilà. Et ce n'est pas une blague. Et jouer plus vite pour se chauffer parce qu'il y avait pénurie de chaleur pendant l'hiver. Mm-hmm. Ce ne sont pas des blagues.
Non, mais
ça fait sourire de nos jours. Quand
Est-ce que vous gardez, d'Anne Poenaru, quelque amertume des regrets d'une carrière qui n'a peut-être pas été celle qu'elle aurait pu être à cause de ces, j'allais dire, tracasseries.
Je ne sais pas ce que ma carrière aurait pu être si j'avais gagné quelques prix. C'est possible qu'elle aurait été différente, mm-hmm. mais je n'ai pas...
Pas d'amertume, pas de regrets, pas de colère.
Voilà. Non, plus.
Non ?
Plus.
Plus. Elle a disparu.
Plus, oui. Mm-hmm. Non, je me sens très bien là où je suis. Disons que je ne considère plus, et c'est triste à dire, la Roumanie comme mon pays.
C'est vrai.
Oui, oui.
Comme le vôtre, en tout cas.
Oui, oui. Oui, j'ai des racines, puisque j'ai encore ma mère.
C'est loin de vous, maintenant.
Oui, c'est un endroit géographique où il se fait que je suis né, mm-hmm. il y a quelques années. Mais mon pays, c'est ici.
Ouais. Dont vous avez la nationalité.
Exact.
Cela dit, quand vous arrivez en Suisse, vous continuez évidemment à travailler le piano plus que jamais, et pas avec n'importe qui, puisque vous vous retrouvez à travailler avec Eduardo Vercelli.
Si.
C'est pas mal, hein?
Oui, je ne sais pas.
Vous auriez pu tomber pire.
Oui, j'aurais pu. Oui. J'aurais pu. Mais c'est à travers une connaissance qu'on est arrivé chez Vercelli qui m'a auditionné. Je lui ai dit que je voulais quand même continuer à parfaire un peu mon répertoire et puis avoir des conseils. Et puis il a accepté. Mm-hmm. Et puis dans la foulée.
Et ça vous convenait?
Oui, tout à fait. Non, c'était des cours de maître. Mm-hmm. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler le deuxième concerto de Brahms, par exemple. Il m'a donné quelques bons conseils. Pas assez approfondis, puisqu'il avait beaucoup d'élèves, et puis parfois, il était un peu lunatique. Mm-hmm. Mais ce que j'ai appris de lui, c'était fabuleux.
Alors, on n'entendra pas Eduardo Vercelli, mais vous aviez envie qu'on écoute ce soir quelques œuvres, enfin quelques extraits d'œuvres que vous avez choisies pour des raisons qui vous appartiennent, mais qu'il va falloir nous expliquer. En l'occurrence, par exemple, le deuxième mouvement du concerto italien de Bach.
J'ai découvert à travers un coffret qu'Olivier m'a offert il y a quelques temps.
Ah, c'est vous ça, alors.
Oui,
c'est
Claves. Voilà.
Ah, c'est Claves.
C'est Claves.
Faisons un peu de pub à Claves. Il n'y a pas de raison. Allons-y. Même sur la première, c'est possible.
J'ai découvert donc un coffret avec des enregistrements remarquables d'un pianiste dont on n'entend plus parler, qui est Michael Studer. Et j'ai écouté avec beaucoup d'émotion la totalité du coffret. Et j'avais le choix entre plusieurs enregistrements, mais celui qui m'a marqué beaucoup, ça a été le deuxième mouvement, l'andante, du concerto italien. Il y a quelque chose qui est dans cette musique qui est au-delà de la beauté. Beauté, oui, c'est un palier intermédiaire vers autre chose. Eh bien, en écoutant cette musique, je réalise qu'il y a autre chose. On écoute et puis on n'a pas besoin de se parler.
On va l'entendre et on va constater que c'est c'est un mouvement très lent, un andante, et pourtant c'est très difficile à jouer. Mm-hmm. Pourquoi c'est très difficile à jouer alors que c'est très lent, que ça pose aucun problème de virtuosité en soi, mais ça en pose alors vraiment d'autres, autrement plus difficiles à surmonter.
Ça pose des problèmes d'un autre genre de virtuosité. Mm-hmm. Il est très difficile au piano de faire de la musique en jouant lentement avec peu de notes.
Et sans pédale, ou pratiquement.
Oh, si on n'entend pas, c'est qu'elle est bien appuyée.
Oui, c'est ça. Quelques mots peut-être sur Michael Studer, Olivier Véret.
Michael Studer est aussi quelque part lié au concours Askill, puisqu'il est allé en finale au concours, je crois, en 1967. Moi, je le connais depuis ce moment-là, d'ailleurs. Enfin, mes parents le connaissaient, et on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est quelqu'un qui avait peut-être pas une santé extraordinaire, parce que pour faire une carrière de musicien, il ne faut pas seulement avoir des doigts et du coffre, mais il faut avoir une santé à toute épreuve qui permet ce qui n'était peut-être pas tout à fait son cas. Alors, il a fait une moyenne carrière au point de vue de son étendue géographique, mais il a fait des choses tout à fait uniques. Et aujourd'hui, Claves vient de publier ses 6 disques. Et à une époque de j'aime beaucoup cette expression de formatage artistique, n'est-ce pas? Tout le monde joue la même chose, fort, rapide, virtuose, avec des prétextes divers et variés pour faire de la musique. Et là, on a affaire à quelqu'un qui ne préoccupait dans le fond que de musique et de d'âme, et ça tranche avec ce qu'on entend aujourd'hui, et ça fait du bien. Et quand on réécoute ce disque Bach, on pense, c'est peut-être un peu présomptueux, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, on pense à Dinuli Patti. Mm-hmm. Et finalement, quand à 50 ans ou 40 ans d'intervalle, ça, on retrouve ça, des jalons de gens qui se rejoignent justement au-delà de la virtuosité, de la beauté, de la je ne sais quoi. Il y a des moments comme ça où il y a tout à coup il se passe quelque chose. On en parlait l'autre soir, on passe de l'autre côté du miroir et il se passe quelque chose, une porte s'entrouvre avec ce mouvement-là. C'est tout à fait le cas.
Et où est Michael Studer aujourd'hui?
Il a 67 ans, il ne peut plus jouer de piano parce qu'il est sourd, il a des acouphènes, il ne supporte plus le bruit, il a vendu son piano et il est content de voir qu'on se préoccupe de republier des très belles choses qu'il a faites. Mais c'est évidemment un destin tout à fait tragique quelque part.
Poignant, oui. Thank you. On pourrait écouter la suite, franchement, c'est tellement beau aussi. Parce que c'est pas tout triste, le concerto italien. Non. Comme son nom l'indique, il est italien, donc il commence très vif. Il y a ce moment suspendu, comme ça, de beauté. Et puis, ça vient, pom, pom. Après, ça repart à fond la caisse. C'était donc Michael Studer, et c'est un enregistrement clavès, 6 disques pour 35 francs.
Alors, on ne saurait mieux dire.
Alors, on ne saurait mieux dire. Comment se priver d'une chose pareille, avec 500 Bar, Schumann,
Chopin, Brahms, Haydn, Ravel.
Comment vous avez choisi d'ailleurs
C'est essentiellement 3 ou 4 des disques qu'il a fait pour Clavès. Puis on a pris des anciens disques qu'il publie à compte d'auteur dans les années 70. C'est assez amusant. Et puis des enregistrements inédits de la radio avec l'OSR et l'orchestre de chambre. Alors ça fait un très beau coffret.
Ça fait un très beau coffret pour rien. C'est Noël dans pas très longtemps. Voilà. Je le rappelle comme ça au passage.
Pour moi, si j'ose rajouter une chose, Michael Studer fait pour moi partie d'une catégorie qui est très rare, celle des véritables artistes.
Et je souligne. Oui. Alors je souligne véritable, le mot véritable. Véritables artistes, c'est difficile hein, comme catégorie.
Non, mais ils sont peu nombreux.
Encore une fois, on est dans la subjectivité. Quels sont les critères? Pourquoi véritable?
Tous les autres sont des artistes. Regardez, tout le monde veut devenir
artiste.
Et
vous êtes quoi, vous, alors?
Moi, je suis votre invité ce soir.
D'accord. Voilà, beauté en touche. cela dit, un invité dont je constatais dans la biographie qu'il n'avait travaillé le piano, en Roumanie en tout cas, qu'auprès de femmes.
Tiens. On m'a jamais posé cette
question. Réfléchissez. Voilà. Il n'y a eu que des femmes autour de vous, 3 ou 4 en tout cas.
Pourquoi,
qui se
autour
sont
de moi? C'est à côté du piano.
Non, autour de vous, pianiste, pas autour de vous, simplement, mais que des femmes.
Mais ça s'est passé comme ça. C'était pas un choix.
C'est un hasard.
Oui, un hasard, un pur hasard.
Et qui ne laisse aucune trace particulière.
Aucune. Pour preuve que je me suis très bien adapté à M. Vercelli aussi.
Oui, bien sûr, mais enfin, vous étiez plus grand, vous aviez fait un choix d'adulte, c'est-à-dire de rester en Suisse, de ne pas repartir.
Oui, exact.
C'était très différent. Oui. En Roumanie, il n'y a que des femmes qui se sont occupées.
Non, il y a des... Oui, mais c'est un pur hasard.
Mm-hmm. Et aujourd'hui, je regarde à Crescendo, à Lausanne, il y a beaucoup de femmes aussi autour de vous dans cette école que vous avez fondée en 89, donc, avec votre épouse,
exact.
La première de toutes, évidemment.
Bien sûr.
Mais il y a pas mal de femmes aussi. Hein.
Oui, il y a pas mal de femmes. On a aussi un monsieur comme...
Ça vous paraît curieux comme question?
Ça me surprend un peu, mais ça me fait plaisir comme question.
Parce que la musique ne serait pas sexiste?
Non, pas du tout. Pourquoi je serais sexiste?
Non, pas vous. Je dis la musique.
Non, je ne crois pas.
Il y a eu beaucoup d'hommes jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Les femmes n'étaient pas très, très bien admises dans le milieu du concerto, à part quelques fortes têtes qui n'avaient de féminité d'ailleurs que... Voilà.
Et vous faites allusion à qui?
Mais peu importe.
Ah.
Peu importe. Pas dans le chant, évidemment, dans le chant, Olivier Véret, c'est votre domaine. Hein. Vous êtes un fou d'art lyrique. Donc, évidemment, dans le chant, quand il fallait des femmes, en tout cas, jusqu'à la fin jusqu'au début du 19e, milieu du 19e, on mettait des femmes, on n'avait pas tellement le choix. Mais sinon, les femmes au piano, par exemple, il n'y en a quand même pas beaucoup jusqu'à une certaine époque.
Faites l'exercice
Clara Schumann.
Oh, Clara Schumann, la pauvre. Pourquoi voir comment elle a été traitée.
C'était une femme au piano.
Elle n'avait pas le droit de signer ses œuvres. Elle ne signait pas ses œuvres, c'était Robert qui signait, ou son père.
Oui. Non. Mais est-ce qu'elles étaient si importantes, ces œuvres, comme celle de Fanny Mendelssohn? Est-ce qu'elles étaient importantes?
Peu importe, c'était des œuvres. Il y a bien des œuvres d'hommes qui ne sont pas plus importantes que celles-là, mais qui n'ont pas tellement
le droit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas connus, ces hommes-là.
Oui, admettons.
Je ne crois pas que ça joue un rôle véritable.
Non, vous ne croyez pas.
Vous faites le test, vous écoutez à l'aveugle. Vous allez dans le studio d'à côté où il y a une émission qui se déroule en ce moment. Vous écoutez à l'aveugle, vous ne pouvez pas dire si c'est un homme ou une femme.
Sur Espace 2, en ce moment, Philippe Zibung.
Voilà. Vous ne pouvez pas dire si c'est un homme ou une femme. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test avec du vin rouge ou du vin blanc. Vous le buvez sans regarder. Sans regarder, vous ne savez pas si.
On est bien d'accord.
Donc finalement, c'est un peu le hasard. Je crois que c'est assez juste comme réponse.
Oui. 4 femmes quand même, 4 ou 5, pas un seul homme. Cela dit, vous êtes aujourd'hui non seulement pianiste et concertiste, Dan Poenaru, mais aussi professeur. Vous avez monté une école, on l'a dit, Crescendo, à Lausanne, une école de piano pour adultes.
Exact.
Ça veut dire que c'est prendre conscience à un moment qu'il y a un vide dans ce domaine-là, et surtout qu'un adulte qui commence le piano, ou qui le reprend après des années d'abandon, c'est souvent le cas, c'est pas un enfant.
Exact. Vous avez tout à fait raison.
Et pourquoi c'est pas un enfant? Pourquoi on ne peut pas adapter ce qu'on propose aux enfants à des adultes?
Le premier point, je dirais, c'est la motivation. L'enfant est plutôt motivé à travers les parents. Mmh. Donc il va suivre ce qu'on lui dit, il va suivre une filière classique avec les exercices bien connus. Et puis au bout de quelques années, l'âge de l'adolescence venant, il va se rebiffer contre tout ce qui l'embête. Et puis voilà. Mmh. 30 ans plus tard, il vient nous voir.
Désespéré.
Pas désespéré, mais avec plein de regrets.
Oui, c'est ça, oui. Mais bien toujours sûr. Aussi motivé, finalement.
Alors, c'est un chiffre aléatoire. 30 ans, ça peut être 20, 25. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour accomplir son rêve. Il est très motivé, beaucoup plus qu'un enfant. Hein. Il voudrait y parvenir assez rapidement et avoir du plaisir.
Plus vite que l'enfant,
plus vite que l'enfant,
lui
mais
est contraint
il n'a pas
par
le temps,
ses parents.
Il n'a pas le temps pour étudier, pour travailler, car il est père ou mère de famille. Il doit gagner sa vie. Mm-hmm. Donc le temps pour étudier est très restreint.
Mm-hmm. Chez les enfants aussi, hein, je vous rassure.
Oui, mais parce qu'ils font d'autres. Voilà. Ils font
d'autres choses.
Voilà. Mais l'adulte, il est obligé, disons, mm-hmm. il a plus de contraintes, je dirais, mm-hmm. objectives.
Alors. Comment ça se passe? Imaginons, j'ai 50 ans, une envie oui. irrésistible de reprendre le piano, ou d'apprendre d'ailleurs, oui. j'en ai jamais fait. Oui. Je fais un peu de guitare quand j'étais jeune, mais j'écoute beaucoup de musique. Évidemment, j'ose pas, vu mon âge, mais finalement je fais la démarche d'aller vous voir. Comment vous allez m'aborder la première fois? J'ai jamais fait de piano,
jamais. Alors, la première chose, on va vous poser la question si vous possédez un piano, ce qui est une question toute bête, mais oui. on a eu des réponses négatives assez souvent. On nous a demandé même de faire un cours d'essai pour voir si la personne aime, ce qui n'a aucun sens. On peut aimer ou pas aimer le piano si on n'y a jamais touché, en faisant quelques cours d'essai. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a mis au point une dizaine de cours qui vous donnent des notions de solfège, juste ce qu'il faut pour lire une partition, et puis qui vous explique, je dirais, les rudiments, et vous donne envie, ou plus
ou
du tout.
Mmh. Voilà. Et pas simplement des leçons, c'est pas simplement lire une partition, c'est aussi vous vous engagez, c'est un contrat moral, mais il y a 6 petits morceaux.
Exact.
Hein, ce qui est. Alors,
oui, c'est-à-dire qu'au bout de 10 cours, on arrive quand même à faire à l'élève à jouer quelque chose.
Et puis il se rend compte,
voilà, on y arrive. Et puis là, il décide s'il aime vraiment continuer ou si ce n'est pas son affaire.
Et alors, en général?
La plupart continuent. La plupart continuent.
C'est parce que vous leur faites ce sourire-là?
Non, c'est.
C'est oui, même pas vous qui le faites.
Ça peut faire partie, oui. Ça ne fait pas partie de la méthode. Mais ouais.
C'est une méthode. Alors, vous avez par ailleurs, au-delà de ces 10 leçons hein, qui permettent à une personne qui n'a jamais fait de piano oui. De savoir si vraiment elle est motivée ou pas, et pour vous et pour elle d'ailleurs, hein,
bien sûr.
Vous avez aussi mis au point une méthode avec votre épouse. Une vraie méthode d'enseignement pour adultes.
Voilà, un système. J'aime mieux parler d'une pédagogie, parce que méthode,
c'est enfantin.
Pour moi, c'est un support. C'est un support matériel sur lequel on regarde. Vous avez la méthode de Tcherny ou la méthode Rose, ça ne sonne pas bien.
La fameuse méthode Rose.
Oui.
Sur laquelle on a tous souffert.
Voilà. Moi, petit j'y ai échappé, mais j'ai eu d'autres souffrances.
Oui.
Oui. Alors, on a le système pédagogique est simple à comprendre. On évite tous les exercices qui sont des exercices mécaniques, car, de mon point de vue, ils ne servent à rien.
C'est-à-dire les gammes?
C'est-à-dire les gammes, ce sont juste des... Un échauffement musculaire, mais ce n'est pas ça le but. On essaye dès le départ de jouer en faisant de la musique. Une gamme, si elle est jouée mécaniquement, comme je pourrais jouer là près de votre microphone sans faire trop de bruit, eh bien ça ne sert pas à grand-chose. Oui, je pourrais, mais bon, c'est...
non, c'est pas pareil.
Pour jouer, pour faire de la musique, il faut que l'intensité des sons soit variée. Qu'on joue avec des nuances. Mm-hmm. Or, une gamme incite tout de suite à un travail mécanique, puisque le doigté est très facile à apprendre, et puis on joue sans réfléchir, sans écouter. Or, tous les exercices qu'on enseigne, ou les œuvres qu'on enseigne à l'école, sont basés sur une écoute, sur le désir de faire sonner le piano d'une certaine façon. Donc, il relie la sensibilité, le timbre, l'intensité, des paramètres qui touchent la personne. Et pour cela, il faut faire des mouvements appropriés. Mmh. Et c'est ça la technique.
En même temps, vous savez pertinemment et vous rendez tout à fait conscient vos élèves un peu tardifs, on dira, que vous ne ferez jamais d'eux des virtuoses.
Oui.
En revanche, ce
n'est pas le but.
Ce n'est pas le but, mais c'est qu'ils aient du plaisir.
Exactement.
Il y a trop de virtuoses. Donc c'est vrai que du coup, la gamme devient... l'exercice mécanique devient un peu superflu.
On peut trouver des gammes dans une sonate de Mozart.
Oui, certes.
Des notes qui s'enchaînent en montant et en descendant. J'appellerais pas ça. Oui, parce que c'est de la musique quand même. C'est quand même de la musique.
Oui. Voilà. Chez Bach.
Oui, exact.
Le dernier mouvement du concerto italien.
Voilà. Donc, ce qui me paraît le plus difficile au piano, c'est de faire chanter une gamme. Alors, c'est ce qu'on a entendu les quelques passages de l'andante et de concerto italien. Mmh. Alors, des notes qui s'enchaînent les unes à côté des autres et qui chantaient. Mmh. Ça prend. Ce n'est pas mécanique.
L'une des résistances des adultes, enfin de plus de 50 ans, disons, c'est que souvent ils disent qu'ils ont bien envie, mais c'est trop tard pour apprendre. Et c'est évidemment faux, Dan Buonarro.
Bien sûr que c'est faux.
Ouais.
Ça dépend le but qu'on se propose. Si on veut, dans les 3 ans, donner un récital à la salle Métropole, alors autant changer d'idée tout de suite.
Ah oui, d'accord.
C'est pas, oui.
Ouais, oui. Mais si c'est pour séduire son fiancé, par exemple. Quels sont les motifs? Les gens viennent vous voir parce qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de le faire.
Certains, oui.
Oui.
D'autres, parce que...
Il y a des raisons.
Oui, il y a des personnes dont les enfants ont grandi ou qui partent à la retraite et qui ont plus de temps.
Oui,
voilà.
Et qui ont un piano.
Et il y a d'autres personnes qui ont fait du piano et qui pianotent chez eux ou chez elles sans arriver à grand-chose et qui veulent continuer à se perfectionner. Mm-hmm. Et puis là, suivant le niveau de l'élève, on peut aborder de plusieurs manières différentes. Mm-hmm. Et puis, on n'est pas limité dans le répertoire. On est arrivé à jouer avec quelques élèves des choses assez folles dont j'oserais pas citer les œuvres ici.
Si, si, allez-y, citer.
Oui, quand même, pourquoi.
Allez, un peu de courage.
Non, mais genre des scherzi de Chopin, des ballades de Chopin, des intermezzi de Brahms.
Non.
On a eu un élève, malheureusement il n'est plus de ce monde, qui a commencé avec moi, il était zéro débutant, zéro absolu. Et puis avant qu'il décède d'une malaria, bêtement. Hein.
D'une malaria?
Malaria, oui, il est parti en Afrique, il a oublié de faire ses vaccins. Voilà. Eh bien, on jouait le cycle opus 117 de Brahms.
Non.
Mais oui.
En combien de temps? 27 ans?
Non, pas 25 ans, c'était 15 ans quand même.
Ah oui, une petite quinzaine d'années.
Mais il le jouait, j'entends, il ne jouait pas les notes. Il le jouait, il y avait quelque chose qui se passait dans cette musique.
D'accord.
Oui,
qu'est-ce qui fait qu'on a ou non, puisque vous êtes vous avec des... parce qu'ils peuvent être jeunes, hein, ils ne sont pas que vieux vos élèves, il y en a aussi des jeunes qui ont 15, 16 ans, enfin qui sont déjà des adultes finalement.
Exact.
On dit 15 ans, 16 ans l'adolescence, mais non, ce sont déjà des adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on a ou pas le sentiment musical? D'où ça vient?
Qu'est-ce que vous entendez par sentiment musical?
Ça veut dire que... Ça se voit tout de suite, c'est même presque musculaire, pianiste ou pas, il y a des gens qui posent les doigts sur le piano, et même s'ils font 3 notes qui n'ont ni queue ni tête, on a le sentiment qu'ils savent, qu'ils ont compris quelque chose de la sonorité, de la manière de poser les doigts, et il y en a d'autres, jamais.
Je vais vous répondre à travers un exemple. Je suis très attentif à toutes les émissions où on entend des pianistes de jazz, qui jouent d'une manière naturelle. Qui font de la musique, un Martial Solal.
Ah, oui, d'accord. Oui.
Une sonorité splendide. Hein? Mmh. Il improvise, il a tout dans sa tête. Notre but à nous, comme pianistes, c'est d'arriver à nous approprier la musique. Et vous parliez justement des personnes qui viennent nous voir et dont on a le sentiment qu'il se passe quelque chose. Eh bien, ils ont la musique quelque part dans la tête et puis ils ne se demandent pas comment faire pour toucher le clavier. Ils posent les doigts sur les touches et ça sort.
C'est curieux quand
même. Donc, moi, je suis très sensible à très réceptif à ce genre de sonorité et de personnes.
À cette capacité.
Oui, disons, intuitivement, je la ressens très fort.
Je vais vous donner le choix, un choix difficile, Dan Poenaru, entre un lead de Richard Strauss, chanté par Elisabeth Schwarzkopf, que vous nous avez amené, et Keith Jarrett. C'est pas simple, hein. C'est vous à vous que je défère, confère mon pouvoir. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre.
Voilà,
qu'est-ce
l'un
qu'on
ou l'autre.
Fait
Allons-y avec Keith Jarrett.
Oh.
C'est l'élégance, n'est-ce pas?
Non. Alors, non. On va écouter Elisabeth Schwarzkopf. Un petit extrait.
Je suis très touché.
Enfin, un extrait. Non, c'est pas un extrait. On écoutera
un lied
de Richard Strauss. Oui, c'est 3 minutes 11.
Ah,
Wald Seligkeit. Les joies de la forêt, en somme. Hein.
Oui.
La douceur.
La douceur de la forêt.
La douceur de la forêt.
C'est un lied d'amour.
Oui. Voilà. D'un certain Demel pour la poésie. Mais c'est effectivement Elisabeth Schwarzkopf.
Cette musique me touche beaucoup.
Voilà, écoutez, Schwarzkopf, c'est prendre le risque d'aller jusqu'au bout du morceau. Donc on est maintenant un tout petit peu tard. Dan Poenaru, c'était un bonheur. Alors je rappelle, vous êtes professeur, Crescendo, Lausanne. Il y a un site internet, vous le retrouverez sur www.rsr.ch/devine. On y a mis les coordonnées. Olivier Véret, finalement, à la fin, on vous a plus entendu, et nécessairement. Mais on ne se quittera pas sans écouter Marc Bonan. Et pour vous, en votre honneur, Dan Poenaru, j'ai choisi le mot « virtuosité ». Improvisation, de Marc Bonan. Peut-être. Si Samuel Morier-Genoux veut bien. Mais apparemment, il ne veut pas nous faire entendre Marc Bonan. Ah bah alors d'accord, alors on l'écoute.
La virtuosité, dans des domaines multiples, on constate que certains hommes peuvent ce que ne peuvent pas les autres. Je trouve ça miraculeux et digne de toutes les curiosités. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous ont une grâce, celle de pouvoir, là où d'autres peinent, celle de réussir, là où d'autres ne font que tenter? Je pense que la virtuosité est un don, bien sûr, mais je pense que c'est le produit élégant d'un long travail. Et quand vous serez épaté par la facilité apparente avec laquelle certains font les choses, demandez-vous toujours ce cette facilité suppose de sueur et de larmes.
Des sueurs et des larmes ? La virtuosité ?
Des heures de travail.
Des heures de travail. Olivier Viret, c'était Marc Bonan, ça vous convient ?
Oui, je ne sais pas s'il travaille autant qu'un pianiste ses doigts et lui sa propre virtuosité, mais c'est assez bien choisi.
Je pense que oui. En tout cas, merci Olivier Viret, merci Dano Pennarou. Cette émission est terminée, préparée avec les collaborations de Stéphanie Gauthier et Marianne Burkhardt pour la production, Jean-Baptiste Roumans pour la musique et Samuel Maurier-Genouguet.